Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur l'usage de l'IA par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Est-ce qu'on a une façon différente d'appréhender l'IA quand on cherche à avoir un impact différent sur la société ? Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques et politiques, bien sûr.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune.fm, sur ses apps mobiles iPhone et Android, sur la bande FM 93.1 et sur le DAB+. Ça marche bien sur le DAB+. Là, j'ai testé encore récemment. Vraiment, n'hésitez pas. En podcast sur votre plateforme préférée. Et si cette émission vous plaît, bah merci de vous abonner, mais surtout de prendre ces quelques secondes indispensables pour nous. Pour nous mettre par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, un petit pouce sur YouTube. Voilà, c'est notre seule récompense et ça nous fait connaître parce que, comme vous le savez, ça manipule les algorithmes. Et
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Il y a quelques semaines, j'ai participé avec Ian Ferguson à une table ronde qui s'interrogeait sur l'IA dans le monde associatif. J'en ai même fait une émission spéciale que vous pourrez retrouver parmi les podcasts précédents et qui reprend les meilleurs moments de cette soirée. Pour préparer cet événement, j'ai fait des recherches, bien entendu, et suis tombé sur de nombreuses ressources qui mettaient justement en avant l'usage du numérique, et aujourd'hui bien sûr de l'IA, par les acteurs et pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le monde associatif. C'est là la définition que l'on retrouve sur le centre de documentation du ministère de l'économie. On va citer des sources sérieuses hein, quand même. L'ESS désigne un mode d'entreprendre qui cherche à concilier activité économique et utilité sociale. Elle repose sur des principes de solidarité, de coopération, de démocratie et de primauté de l'humain sur le profit. C'est écrit comme ça, hein, je vous jure que j'ai rien inventé. Les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité publique. C'est là que l'on rejoint finalement un concept qui nous est cher ici à Parlez-moi d'IA, c'est l'intérêt général. L'usage de l'IA par les entreprises classiques commence finalement à être bien balisé. On va avoir une vision de l'IA comme un outil pour maximiser la productivité, pour limiter les coûts, éventuellement pour dégager des marges de profit. Alors qu'est-ce qui différencie l'ESS ? Est-ce que l'ESS cherche à développer et promouvoir une IA d'intérêt général ? C'est une bonne question. Et dans mes recherches, je suis tombé sur un acteur en particulier qui avait l'air particulièrement attentif à ces questions, le Social Good Accelerator, SOGA. Sa directrice est notre invitée aujourd'hui et on va pouvoir lui demander si cela change l'usage du numérique et de l'IA d'être un acteur de l'ESS. Bonjour, Jeanne Bretéché.
Bonjour Jean-Philippe, ravi d'être ici.
Voilà, je vous mets à la caméra quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Bienvenue dans le studio de Cause commune, comme ça on vous voit dans le studio. Alors parlez-moi d'IA, Jeanne. Mais justement, je vous propose quand même qu'on présente le Social Good Accelerator que vous dirigez. Quand et comment il est né cet acteur particulier de l'ESS ?
Alors il est né à un moment où C'est drôle, on est pas mal d'associations qui travaillent aujourd'hui sur les enjeux du numérique d'intérêt général qui sont nés voilà dans ces années-là, donc 2017-2018. Social Good Accelerator, c'est à l'origine un mouvement à la fois d'entrepreneurs sociaux, d'acteurs de la philanthropie et donc d'acteurs de l'ESS qui au Web Summit en 2016 d'abord en fait s'est aperçu que on parlait de scale-up, on parlait de croissance. Quand on parlait de numérique, on voyait que ça. Et on oubliait, on laissait clairement de côté les acteurs de l'intérêt général. Alors même qu'il y avait une grande réunion de commissaires européens, de dirigeants politiques et économiques, de décideurs. En fait, on appelle ça le Davos des geeks. On appelait ça le Davos des geeks, en tout cas. Et on s'est dit, mais c'est pas possible ce truc. On a un modèle européen à défendre et on va revenir l'an prochain en force. Et ce qu'on a fait, donc en 2017, on est revenu bien accompagné, puisque c'était plutôt nous qui l'accompagnions, en délégation de François Hollande, qui venait de prendre la présidence de la Fondation La France S'engage. Et donc, pour la première fois, il était invité à parler d'innovation sociale et d'innovation numérique en plénière devant les 70 000 participants du Web Summit. Ça a été une rampe de lancement assez incroyable.
Un moment fondateur.
Ouais, puisqu'on a pu rencontrer un certain nombre de décideurs en coulisses. On avait un accès VIP, c'était assez pratique. Ce faisant, on a notamment rencontré Carlos Moedas, qui était commissaire européen à l'innovation et à la recherche, et finalement à s'engager sur les sujets d'innovation sociale et numérique, avec des projets de recherche européens assez fondateurs, et qui nous a réinvités à Lisbonne 2 semaines plus tard pour qu'on démarre notre dialogue européen avec d'autres acteurs.
Donc finalement déjà le SOGA, c'était, enfin d'entrée de jeu, vous êtes un acteur qui se place à l'échelle aussi européenne.
Oui, pour plusieurs raisons. Donc il y a cette historique Paris-Lisbonne,
ouais.
Paris-Lisbonne-Bruxelles même. Et puis moi, pour des raisons personnelles, j'ai emménagé à Bruxelles en 2018 et j'ai continué à naviguer entre Paris et Bruxelles, mais ça facilitait aussi pas mal le dialogue avec la Commission. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, on avait beaucoup plus d'écho, finalement, quand on parlait transition numérique de l'économie sociale. On dit économie sociale au niveau européen. Mmh. À Bruxelles qu'en France.
Ah oui.
En France, on a essayé de parler aux ministres successifs sans vraiment trouver d'écho. Alors qu'à Bruxelles, on travaillait vraiment avec la Commission, notamment sur le plan d'action européen pour l'économie sociale, puis sur ses déclinaisons en termes de feuille de route, puisque l'économie sociale est considérée comme un des 14 secteurs industriels stratégiques par l'Union européenne. Et donc, on a travaillé vraiment de manière très constructive avec la Commission européenne, historiquement, et avec d'autres acteurs de l'économie sociale qui s'intéressaient à ces sujets, ce qui est hyper riche, parce qu'en fait, on peut vraiment identifier à la fois des innovations, à la fois des universités qui ont bien creusé le sujet et sans doute plus, par exemple, en Italie qu'en France. Ça nous a permis d'accélérer beaucoup, en fait.
D'avoir une vision large, en fait, de ces questions-là à l'échelle européenne.
Oui.
Donc, avec toujours cet aspect innovation sociale, numérique. Donc, on le voit, vous existez et vous avez débuté vos actions bien avant la vague actuelle de l'IA.
Oui.
Qu'est-ce que ça vient, finalement, rajouter? Comment vous pensez l'IA, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient rajouter dans cette réflexion globale sur le numérique d'intérêt général?
Alors, pour nous, c'est la pointe immergée de l'iceberg.
Ouais.
Alors, j'ai coutume de dire que c'est assez pratique de parler d'IA parce que on parle enfin de numérique, en fait.
C'est ça. Tout le monde se met à en parler.
Et notamment parce qu'en parlant d'IA, en fait, on parle des effets de bord du numérique enfin.
Ouais.
On arrête de considérer que l'IA, c'est juste un outil, alors que jusqu'à présent, on avait une approche souvent très technique et très utilitariste du numérique, sans vraiment considérer, alors, mis à part évidemment certains pionniers que je vais être obligée de citer, comme la Fondation Internet Nouvelle Génération, un certain nombre de sociologues notamment, hein, d'experts en sciences humaines, qui ont quand même documenté pas mal de trucs depuis 20 ans. Mais il y a quand même ce tournant qui est très clair. On considère enfin que le numérique, c'est une révolution générale.
Et on peut en parler à tout le monde.
Ouais. Et ça devient palpable, en fait.
Donc,
et on n'a pas nécessairement besoin d'ailleurs d'être expert pour parler d'IA.
Ouais.
Ce qui est aussi une révolution.
C'est fou. Hein.
Ouais.
Comme quoi, une interface peut tout changer dans la manière d'aborder un outil global. C'est quand même fou, quand même.
Parce que elle a les traits, finalement...
Oui.
D'un humain, et donc ça devient concret.
Je vous propose que du coup, le SOGA, si on rapidement, c'est, voilà, vos grands piliers d'activité.
Oui.
Puis après, on passera peut-être à des questions sur comment on peut envisager les usages de l'IA au sein de l'ESS, mais peut-être finir quand même sur bien comprendre ce que vous faites au SOGA.
Oui, parce que enfin, on a démarré nos activités avec plutôt une activité de plaidoyer et de recherche qu'on a toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est en signe qui est doutant que ça, c'était le projet de départ, mais on est aussi une sorte de tête de réseau assez transverse.
Fédérer.
Donc, on fédère, oui, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les têtes de réseau, les chercheurs et les accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire pour les faire réfléchir et co-construire ensemble des solutions, des connaissances pour mieux accompagner les structures de l'économie sociale. C'est vrai qu'on est parti d'un double constat, hein, c'est que la transition numérique des organisations de l'ESS, alors pour des raisons différentes, si on considère les associations et les coopératives par exemple, mais néanmoins, elle était sous-financée, sous-accompagnée et puis surtout insuffisamment reconnue ou prise en considération par les politiques publiques. Et puis que par ailleurs, on avait au sein de l'économie sociale des champions numériques, parfois qui ont démarré très tôt, hein. Je pense à Framasoft par exemple.
Bien sûr.
Beaucoup sont nés d'ailleurs de l'éducation populaire et qui proposent des alternatives inclusives, éthiques, qui peinent à émerger aujourd'hui face au modèle dominant du numérique, alors qu'elles représentent des solutions hyper intéressantes et avec des potentialités aussi de créer un réseau distribué en fait.
Il y a des alternatives fortes mais qui sont peu visibles et qu'il faut rendre visibles.
Oui, il y a des alternatives fortes qu'il faut rendre visibles, qu'il faut aider pour le coup à changer d'échelle.
Ouais.
Et en fait, là, on est plutôt sur ce qu'on appelle, nous, la social tech. Donc, c'est les organisations qui ont des statuts de l'économie sociale et en même temps qui ont une expertise numérique qui est le cœur de leur activité ou des modèles économiques numériques au cœur de leur modèle. Et ces acteurs-là, ils rencontrent un certain nombre de barrières au financement. Aujourd'hui, il y a une inégalité flagrante de traitement entre les startups classiques et les coopératives. Je parle même pas là des associations, mais
ouais.
Sur l'investissement.
Pour les financeurs, c'est des objets non identifiés en fait.
C'est identifié, mais il y a des critères extrêmement difficiles à casser sur les fonds propres notamment. Enfin, là, on va rentrer dans des détails financiers, mais bref.
Oui, mais on comprend effectivement que...
Voilà.
Et donc ça, en expliquant mieux leur activité et en expliquant mieux finalement vers quoi elles tendent, vous essayez de casser ces barrières-là.
Oui, et puis en fait, on essaie aussi de documenter cet écosystème avec cette grille de lecture qui est celle de la loi Hamon, en fait, de la loi qui définit les critères de l'économie sociale et solidaire. En se disant, mais en fait, si on adopte cet angle-là, on peut vraiment mettre à jour toute une chaîne de valeur en réalité.
Oui.
Donc là, on identifie 8 familles, mais je pense que c'est encore assez parcellaire. Et ça va donc des acteurs de l'inclusion numérique aux acteurs du reconditionnement du hardware qui travaillent avec des modèles d'insertion par l'activité économique en proximité. Au commun numérique, en passant par les éditeurs de logiciels libres, les alternatives aux plateformes, bien sûr, comme Label Emmaüs, par exemple.
Oui.
Voilà. Donc, en fait, c'est hyper riche et c'est loin d'être anecdotique.
Bah oui. C'est le fameux tiers secteur dont nous parlait Ian Ferguson pendant cette table ronde.
Voilà, mais qu'il n'y a pas de documentation vraiment robuste aujourd'hui. On le connaît mal. Il n'y a pas vraiment de périmètre.
C'est un concept.
Donc, ça, c'est un...
Okay.
C'est un chantier qu'on a en ce moment.
Et tous ces acteurs, du coup, ils étaient déjà là. Et l'IA vient effectivement les éclairer différemment et leur donner aussi des outils nouveaux par rapport à leur activité. Si on aborde un peu justement les cas d'usage ou en tout cas les manières d'aborder l'IA par ce type d'acteurs ou par globalement le secteur de l'ESS, est-ce que vous avez identifié une façon différente, peut-être justement parce que l'objectif est différent, de venir utiliser ces outils-là? Est-ce que vous avez des exemples particuliers qui vous ont été particulièrement révélateurs de cet usage différent?
Je vais commencer quand même par dire que y a effectivement, on en parlait avant de démarrer l'enregistrement, il y a des usages internes qui sont quand même très similaires aux usages de n'importe quel TPE, PME.
Ils cherchent tous à faire des comptes rendus, ils cherchent tous à faire
des PowerPoint,
des synthèses, des PowerPoint.
Okay. Exactement.
Gagner du temps.
gagnait du temps. Et alors, le gain de temps, c'est hyper critique dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on travaille à ressources extrêmement limitées. Mmh. Et donc, moi, j'ai coutume de dire que l'IA, ça fait aussi un peu rêver dans l'ESS parce que c'est un pain reliever.
Mmh, c'est ça.
Et ça l'aide dans tous les pans de l'économie, mais notamment dans l'économie sociale parce que ça vient libérer, enfin en tout cas, ça promet de libérer les salariés qui sont totalement débordés et qui souffrent de coupes budgétaires assez drastiques en plus en ce moment.
On y reviendra, mais effectivement, vous proposez aussi des formations sur ça, justement, sur les outils, sur la manière de faire.
Oui. Donc, on a des usages assez classiques. Donc, on abordait le sujet de la recherche de financement et,
ouais,
et de l'accompagnement à l'élaboration des réponses aux appels à candidature.
Qui est crucial pour ce domaine-là.
Qui est crucial. Alors, c'est drôle parce que j'ai le point de vue aussi des émetteurs d'appels à projets.
Ouais.
Parce que c'est mon métier d'origine, hein, ouais, d'accompagner plutôt les structures philanthropiques. Et donc, on voit que, évidemment, c'est incroyablement efficace, notamment quand on est obligé de remplir 10 formulaires différents avec des critères hyper hétérogènes.
Ouais.
En fait, il suffit d'avoir un bon document socle bien construit.
Et le reprendre à chaque fois.
Hop, on le met en pièce jointe sur une IA que je nommerai pas. Mmh. Et ça répond tout seul aux questions. Alors ça, c'est vrai que c'est assez magique.
Ça marche.
Ça marche plutôt pas mal.
Oui.
Notamment quand on a des éléments de méthode et qu'on prompte bien.
Oui.
Parce qu'on va pouvoir lui dire, bah, en fait, inspire-toi de la méthode qui est documentée dans ce document que je te donne pour répondre à cette question en reprenant les éléments du document socle que je t'ai fourni.
On mettra en description de cette émission quelques ressources très, très intéressantes et très riches que j'ai trouvées dans, justement dans nos différents échanges et nos différentes recherches,
ouais,
qui documentent bien ça. Donc s'il y a des auditeurs et auditrices de l'ESS qui sont intéressés par les solutions, on va leur mettre les liens en description de l'épisode.
Alors, quelques points de vigilance quand même, parce que faut vraiment bien relire et bien réécrire en réalité derrière. Mmh. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup.
Ça fait gagner un temps fou.
Ouais. Mmh.
Il y a d'autres moments où vous vous êtes dit, ah bah là, ça nous aide bien quand même. Des cas où...
En dehors des cas qu'on a déjà mentionnés, de compte rendu, enfin de, ouais, la rédaction des PV, clairement.
Oui. Ça, c'est un temps fou.
Oui, ça, c'est magique aussi.
On avait le cas de mavoix.org que vous avez eu en webinaire.
Oui.
Qui, finalement, utilisait l'IA comme un coach pour accompagner, pour avoir des effets ping-pong avec des personnes en recherche d'emploi.
Oui. Oui, alors là, on est plutôt sur du service, donc on passe de l'autre côté,
oui,
du miroir.
Oui.
Effectivement, Mavoix teste ça. Et en fait, parce que là, on est sur du test and learn.
Oui, là, on est sur
comme bien souvent, en fait.
Oui.
Et ce qui est intéressant aussi dans le cas Mavoix, c'est que, bon, ils ont pris le parti de dire, ben, c'est des jeunes qui trouvent peu d'interlocuteurs et qui sont pas forcément très à l'aise pour, par exemple, aller en mission locale. En tout cas, parler à des représentants d'institutions. Mmh. C'est ce qu'on appelle les NEETs. Donc, c'est des jeunes qui essayent d'échapper au système la plupart du temps. Et donc, ça peut être un outil intéressant pour essayer de les réembarquer. Et en même temps, là, dans le test and learn, ils documentent aussi les effets de bord potentiels.
Oui.
Et donc, ça va être très intéressant, le retour, enfin les enseignements de ce test. Ils viennent de lancer l'outil, là. Parce qu'on peut aussi présupposer qu'il va y avoir des effets négatifs.
Toujours un peu le cas, de toute façon.
L'IA étant bourrée de biais, typiquement. Le problème, en fait, c'est que l'IA, elle est entraînée sur des données avec des algorithmes qui sont aussi biaisés, par définition, et qui sont surtout tournés vers la performance.
Ben oui, qui sont pas tout à fait.
Donc dès lors qu'on rentre pas parfaitement dans des cases qui sont préétablies, et en fait on souhaite plutôt à ces jeunes de ne pas être parfaitement dans des cases, sinon je pense qu'ils auraient un autre parcours. Et puis c'est une richesse d'une certaine manière. Ils vont nécessairement sortir un peu des cases prescrites par l'IA, quoi. En tout cas, issues des données qui ont été entraînées. Donc c'est oui, c'est potentiellement problématique, mais on verra.
Et là, finalement, bah, c'est, on en vient au sujet, l'autre sujet qu'on voulait aborder, finalement. C'est qu'il faut potentiellement qu'il soit conscient de tous ses biais, de ce que ça va faire. Donc il faut qu'il soit un peu formé.
Ouais.
Et d'où l'importance, comme partout, mais là aussi dans le secteur de l'ESS, des formations. Vous aviez, enfin vous avez, vous avez une formation spécifique dans ce domaine que vous proposez sur votre site. Qu'est-ce qu'elle, comment elle a été conçue? Là, on va retrouver un peu le cadre européen, si j'ai bien compris.
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle avait comme objectif, comme apport par rapport à d'autres formations plus généralistes?
Oui, alors cette formation, elle a été construite dans le cadre d'un projet de recherche, parce qu'on a un financement Horizon. Et donc, on est en consortium avec des acteurs belges, une université italienne, enfin deux universités en fait, puisqu'on a plutôt les ingénieurs pédagogiques et puis on a aussi une structure qui aide plutôt à l'évaluation d'impact.
Mmh.
Et donc notre partenaire Diesis qui est à Bruxelles et notre alter ego slovène avec lequel on a construit les contenus de formation. Et donc c'est hyper intéressant de travailler en transculturel et de se reposer la question aussi de est-ce qu'on peut standardiser finalement les personas, donc les publics cibles ou pas.
On se pose pas forcément les mêmes questions en fonction des pays européens, d'accord.
Enfin, pas toujours.
Oui.
Nous, on a un écosystème hyper complexe sur l'économie sociale en France.
C'est vrai, riche du coup.
Riche, mais pas simple de standardiser les réponses. Oui. Ce qui, dans le numérique, est un peu contre-intuitif.
Enfin, on aime bien effectivement bien processer effectivement le.
Voilà.
Et cette formation, elle a trois piliers. Bon, culture générale sur l'IA, ça, c'est classique. Défi sur l'IA, c'est un peu ce dont on parlait, c'est-à-dire avoir la conscience de tout ce qui est derrière l'IA et les biais. Alors j'allais dire c'est classique, c'est peut-être classique pour nous, parlez-moi d'IA, parce que nous on en a beaucoup parlé, mais c'est peut-être pas classique pour tout le monde. Mais effectivement, c'est rappeler les problèmes de biais, de contraintes sur la propriété intellectuelle, de consommation d'énergie, voilà. Donc ça c'est vraiment les défis que les gens doivent avoir en tête pour l'utiliser. Et moi il y a une troisième partie qui m'intéresse, c'est justement, comment utiliser l'IA pour les organisations de l'ESS avec des questions sur l'utilisation stratégique et après les questions d'outils d'IA, notamment pour soutenir la prise de décision. Bah, tout ça, quelle est la spécificité dans la formation pour l'ESS de l'utilisation stratégique de l'IA ou des outils de prise de décision?
Alors, en fait, tout dépend, je pense, du niveau de maturité numérique de départ.
Mmh.
C'est rigolo cette formation parce que, évidemment, il y avait IA dans le titre.
Voilà. Oui.
Ça grosse puissance marketing.
Ça attirait tout le monde, ouais.
Donc, on a les trois parcours en réalité.
Oui.
Donc, IA plutôt pour les profils cadres.
Oui.
Communication, fundraising numérique plutôt pour les salariés. Et une dernière partie, pas réellement numérique, sur l'économie sociale et l'évaluation d'impact. Et c'est vraiment celle sur l'IA qui a cartonné. Et en même temps, en fait, on voit bien en échangeant avec les apprenants que le socle de culture numérique n'est pas là. Donc, en réalité, ça sert à rien de parler d'IA si on maîtrise pas les premières stacks, quoi.
Les fondamentaux.
Quand on parle d'usage stratégique, finalement, de l'IA dans l'économie sociale, il y a un impensé qui est celui des données.
Mmh. Et de la manière de les organiser, de les créer, de les produire, de les
Exactement.
Stocker.
Exactement. Donc là, j'écarte l'IAG, les grands modèles de langage, parce que bon, là, on a plutôt des usages. Alors, ça dépend, évidemment, il y a des usages avancés comme celui de Wikipédia, on va peut-être en parler.
Oui.
Ou celui de modèles de start-up social, ça existe, hein, comme Mavoie, ou KZI de Base Impact. Mais au-delà de ça, la révolution de l'IA pour le business, en fait, c'est la révolution de l'automatisation de l'analyse de données.
Oui.
Et du pilotage, finalement, par la donnée, facilité par l'IA.
Ça peut leur faire prendre conscience que, du coup, ça peut être à leur portée aussi.
Alors, ça peut être à leur portée s'ils prennent conscience qu'effectivement, il faut organiser les données. Mmh. Et la complexité, c'est pour ça d'ailleurs que notre... Parce qu'on organise chez Soga un événement annuel avec notre communauté qui s'appelle NEC-USS, donc Numérique en commun dédié à l'ESS, avec d'ailleurs un dialogue fécond avec les acteurs publics du numérique d'intérêt général. Ça, c'est la communauté numérique en commun qui a été organisée par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et l'an passé, je me suis battue bec et ongles pour que notre thématique, ça ne soit pas l'IA, ça soit les données. Et je me suis un peu bagarrée là-dessus, mais je pense que j'ai eu raison. Parce qu'en fait, on a, en dialoguant lors de cet événement, pris conscience que les données dans l'ESS, c'est assez compliqué parce que les données n'appartiennent pas nécessairement aux organisations. En tout cas, il y a des tentatives de préemption permanente. Il y a une injonction à l'ouverture qui est liée au financement hybride. Et donc ça, c'est déjà assez compliqué à craquer. Et puis, il y a un manque de conscience de classe, hein, en tout cas de besoin d'organisation sectorielle probablement, parce que c'est là que ça a le plus de sens, par branche professionnelle, par exemple. Et donc, il n'y a pas encore beaucoup d'initiatives de commun de données. Il y en a un peu dans le médico-social, il y a un projet qui s'appelle Canopée, qui est assez intéressant. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas organisé les données, et tant qu'on ne sera pas posé finalement les questions stratégiques à poser à l'IA, ça ne sert à rien d'utiliser l'IA. L'IA, c'est que de l'automatisation. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, pas de data, pas d'IA, et donc du coup, pas d'organisation correcte de la data, pas d'IA utilisée correctement. On se rapproche de la fin, donc je ne veux pas trop ne pas évoquer quand même votre dispositif Café IA Asso,
oui.
Que vous proposez avec le CNUM.
Oui.
Donc c'est un Café IA. Café IA, c'est un dispositif du CNUM globalement, qui marche pas mal avec les entreprises, avec le grand public. Et vous en avez proposé un modèle spécifique aux assos.
Mm-hmm.
Et vous me disiez hors antenne que bon, voilà, maintenant il faut arriver à trouver les financements pour le diffuser. Il a une particularité, le Café IA Asso ?
Il a peut-être un point de vue critique d'emblée.
Ouais.
Ce que j'ai pas dit, c'est vrai que la complexité aussi d'aborder les sujets numériques dans l'économie sociale, c'est qu'on a, quand on est dans l'économie sociale, on a toujours une double casquette, donc c'est celle d'entrepreneur social, même si je suis pas très fan du terme. Donc, voilà, faire fonctionner le modèle économique, socio-économique, parce que dans toute organisation employeuse, il y a un modèle socio-économique. Hein. Et puis, il y a le côté militant...
Alternative.
Ouais.
Proposition d'alternative.
Oui, le rôle politique, finalement.
C'est ça.
Auquel on n'échappe jamais. Et donc, quand on aborde l'IA, on est sur cette tension permanente... entre le regard critique et
l'usage qui va apporter quelque chose.
La montée en compétences, ouais, quand même, qui doit se faire. Enfin, moi, je défends ça.
Bien sûr.
Fort, parce que pour ne pas rester sur le bord de la route et pouvoir continuer à se battre à armes non pas égales, parce qu'on en est loin, mais...
Mais est-ce que c'est finalement pas ça l'IA d'intérêt général ? C'est de se dire qu'effectivement, il y a des outils, il faut les utiliser, mais avec effectivement avec une conscience, avec un sens critique, avec peut-être des usages qui sont un peu différents.
Oui, des modèles, sans doute des modèles économiques différents. Moi, je pense que la clé, elle est là. Et des modèles économiques et des modèles de coopération différents.
Bon, ben restons sur cette conclusion finalement de tout ce que l'ESS propose comme alternative et que tout n'est pas joué en fait. Parce qu'il y a ce secteur qui est là et qui est dynamique.
Mm.
Si ça vous va. Merci beaucoup Jeanne pour cette présentation du Soga, de vos activités, des usages de l'IA et de ce que ça révèle des activités de la sphère économique, sociale et solidaire. On vous retrouve sur votre site ?
Oui. Avec plaisir, socialgoodaccelerator.eu.
Génial. Merci beaucoup, Jeanne.
Merci.
Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous avez un impact énorme, vous aussi. Avec un petit like et un petit commentaire, vous pouvez manipuler un algorithme. Et ça, c'est très important pour aller plus loin et pour propager des contenus plus loin. Si vous nous laissez un petit commentaire, en plus, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est une sorte de petite récompense pour nous. Allez, restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. À bientôt.